Donc après avoir pris hier les regarder, intégrer les leçons d'histoire hein, avec trois grandes expériences, hein, les mouvements d'éducation populaire, ce qui se passe en Amérique latine et puis le croisement des savoirs d'ATD, fort de cet arrière-fond. Et nous abordons ce matin la manière de recueillir l'expérience de la parole des pauvres, qui est le fruit de l'expérience des praticiens et des groupes de base. Alors ce matin, il y aura d'abord une intervention de Jean-Claude Caillot, et puis ensuite, à 10h, un panel d'expérience. On aura des présentations brèves de 5 minutes chacune, de 10h à 10h30, un temps de pause de 10h30 à 11h, et puis de 11h à 12h, nous prendrons le temps d'être dans un des ateliers auxquels vous vous êtes sans doute inscrit, sinon il faudra le faire au moment de la pause. Donc je donne la parole à Jean-Claude Caillot sur les conditions de l'expression et du recueil d'une parole des plus pauvres. Je te laisse le soin de te présenter.
Voilà. Bonjour. Tout le monde entend, là ? Non ? Là, vous entendez ? Oui, ça va. Bien. Donc, Jean-Claude Caillot, voilà, je suis membre de la Pierre d'Angle. Non ?
Un peu plus près du micro, il va monter, ça va.
Non, ça va aller. Là, ça va ?
On va monter le micro. Continue de parler.
Voilà. Donc,
peut-être plus en face.
Voilà.
Vas-y, tu parles et il va monter.
Donc, je suis membre de la Pierre d'Angle. Je suis aussi volontaire du mouvement ATD Quart Monde. Ah. Je vais prendre le micro.
Vas-y, Jean-Claude, tu peux parler, s'il te plaît ? On peut les laisser le micro.
1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Et là, ça va ? Oui, là, j'ai l'impression. Oui, j'entends.
Là, c'est bon.
J'entends ma voix, donc voilà. Je disais donc que je suis membre de la Pierre d'Angle. Un jour, Jésus se trouve dans le temple, devant la salle du trésor. Il est devant un des 12 troncs qui sont dans le temple pour recueillir les dons des fidèles. Il s'assied, dit le texte, Marc 12. Il s'assied, prenant la posture de l'enseignant. Et le texte encore précise qu'il regarde. Il contemple et observe. Le verbe employé est théorein, théoreille. Il regarde et observe. Il contemple la foule. Plus précisément, il contemple comment la foule met l'argent dans le tronc. Il regarde, comme pour écouter ce qu'il a devant lui. Comme si, au lieu d'enseigner ce qui viendra le verset qui suit, mais comme si au lieu d'enseigner, il se mettait d'abord en position d'apprendre, de recevoir ce qu'il voit, de se laisser dire par les autres ce qu'il faut entendre. Il voit d'abord, vous connaissez le texte, de nombreux riches mettre beaucoup d'argent dans le tronc. Puis voici que vient une femme, seule, veuve et pauvre. La traduction habituellement se contente de dire qu'elle est pauvre et veuve. Ce qui est vrai, mais le texte précise qu'elle est seule, Mia. Seule, veuve et pauvre, qui donne deux piécettes d'une valeur dérisoire. mais qui sont, traduit littéralement, toute sa vie. Et non pas toute sa subsistance, mais bien toute sa vie. À partir d'elle, cette femme, Jésus va enseigner ses apôtres. Jésus sait voir et entendre. Il regarde et dévoile ce qui est inaperçu. Il interprète à partir de ce que disent les gestes et les attitudes. Dans le Premier Testament, comme dans le Nouveau, il est quantité de porteurs inconnus de la parole, révélateurs de l'identité de Dieu, et pourtant réduits au silence, parce que trop faibles. En cette femme, pauvre, veuve et seule, Dieu se donne à connaître, car elle ressemble, cette femme, elle ressemble au Père qui donne tout ce qu'il est en donnant son Fils. Les gens invisibles ou insignifiants pour les autres appellent nos yeux pour voir et entendre, appellent nos yeux et nos oreilles pour voir et entendre, car ils mettent en lumière des choses que nous ne savions pas. Les conditions de l'expression et du recueil d'une parole des plus pauvres, c'est le sujet que l'on m'a demandé de traiter. J'en parlerai à partir de mon expérience, ou plutôt à partir de ce que j'ai compris après coup. Et cette expression est importante, vous l'entendrez plus tard. De ce que j'ai compris de la manière dont j'animais quelques groupes, dont l'objectif singulier était de parvenir à la rédaction d'un ou plusieurs textes. L'objectif de ces groupes était de partager, de réfléchir ensemble, de se questionner, en vue de la rédaction d'un texte, de plusieurs, qui seraient ensuite transmis et rendus publics. Il y a donc une singularité de ces groupes. Je ne parle pas là de groupes qui partagent autour de l'Évangile, qui partagent leur vie pour s'encourager et progresser dans l'existence, mais bien de groupes en vue de la production d'un texte qui sera rendu public. Ce fut le parcours avec le groupe Place et Parole des Pauvres. Vous savez qui a tenté, essayé et réussi de préparer le rassemblement de Diaconia 2013 à Lourdes pendant 3 années, près de 30 journées de travail. J'y ajouterai le groupe Place et Parole des Migrants pendant 6 mois, tous les 15 jours, 12 journées de travail, et aussi, bien sûr, le travail avec quelques groupes de la Pierre d'Angle qui, eux aussi, ont préparé des interventions à rendre publiques. Quelqu'un d'autre aurait sans doute fait autrement que moi. Autrement. Ce qui veut dire que je n'absolutise pas, je ne généralise rien. Je n'en tire aucune méthodologie contraignante. Tout au plus de quoi réfléchir pour permettre aux uns et aux autres d'améliorer la route empruntée, voire de procéder complètement autrement. Je disais que je m'étais rendu compte après coup, de la route que j'avais prise. On me fera remarquer, à juste titre sans doute, qu'il eût mieux fallu avoir une méthode préalable, avoir imaginé à l'avance les divers sentiers à parcourir, avoir déjà fiché sur la route les pieux permettant d'éviter les ornières. Mais c'est un fait que ce n'est pas ce que j'ai fait. Or, je dois parler de ce que j'ai fait. Cependant, il me faut préciser que permanent du mouvement ATD Quart-Monde, j'avais derrière moi 30 années de relations avec les personnes marquées par la misère et le malheur. Ce qui n'est bien sûr pas rien en fait de manière de faire et ou d'être. Ce que je veux dire, c'est que je n'arrivais pas devant ces groupes avec une méthode précise à appliquer point par point, une liste d'attitudes à avoir ou à ne pas avoir. J'ai plutôt, comme on dit, navigué à l'estime. Je n'avais rien anticipé, simplement parce que ma responsabilité n'était pas de conduire ces groupes quelque part, là où j'aurais prévu, ni de leur enseigner quoi que ce soit. J'étais avec des personnes en situation de précarité dont la vie quotidienne était difficile et elles étaient d'accord pour réfléchir ensemble. Tel était le contrat. Rien de plus. Alors j'ai pris les personnes telles qu'elles étaient et ensemble nous avons avancé. J'étais l'animateur de ces divers groupes, au sens où il était nécessaire que quelqu'un soit le garant de la liberté de parole et du respect dû à chacun. Disons que j'ai simplement suivi le chemin comme on marche, en découvrant au fur et à mesure. Il me faut ajouter, mais ça a son importance, il me faut ajouter que je ne suis pas du tout un spécialiste de l'animation. Et même que je n'aime pas trop ça, à vrai dire. Alors je venais avec seulement quelques règles, comme on garde avec soi quelques viatiques, des règles rappelées assidûment au début de chaque rencontre. Les voici dans leur simplicité. 5. De temps en temps, j'en rajoutais une sixième ou je retirais la cinquième. C'est selon. Vous allez voir, vous connaissez tout ça par cœur. Je parle devant un auditoire qui pratique ce genre de choses. Ne pas parler tous en même temps, ne pas couper la parole. Ah, attention à cette règle-là. Ne pas contredire quelqu'un ou ne pas s'affirmer par opposition. Ah non, Luc, tu as complètement tort dans ce que tu as dit. Moi, je pense que... Non. Non, pas ça. Mais dire simplement ce que l'on pense, ce n'est pas si simple. Pas seulement dans des groupes que j'animais là, mais ce n'est pas si simple même entre nous. Prendre soin de la parole de celui qui a le plus de mal à s'exprimer et donc lui donner la priorité. Enfin, prendre garde au fait que la parole des autres ne nous appartient pas et que cela nous engage à quelque discrétion. Ce qui sera public, c'est le texte une fois rédigé, mais pas l'échange entre nous, qui restera confidentiel. Alors maintenant, voici quelques balises, formalisées après coup. Après coup. Il y en aura 8. Pour y en avoir davantage. Il s'agit tout d'abord de travailler en soi deux convictions. Tout être humain a une pensée. Et deuxième conviction, nous avons à apprendre des plus pauvres. Il ne s'agit pas de recueillir le témoignage de ceux qui ont la vie difficile en raison de la misère, que devant vous j'appellerai pauvre pour faciliter le langage, mais je n'ignore pas les difficultés de la catégorisation, de l'essentialisation, etc., etc. Je n'entrerai pas dans ces débats. Il ne s'agit pas donc de recueillir le témoignage de toutes ces personnes, ni de mieux comprendre ce qu'ils vivent, afin d'affiner telle ou telle décision prise, mais de nous laisser affecter par leurs paroles, pour permettre à la pensée, au point de vue des très pauvres, de réinstruire de l'intérieur nos manières de voir le monde, les êtres humains, Dieu lui-même. Les pauvres ne sont pas une opportunité pour la pensée des autres, un tremplin pour leurs propres élaborations. Ils sont les auteurs d'une pensée. Une pensée dont nous avons à apprendre. Deuxième balise, comme les balises dans la mer, vous savez, ça trace un chemin, mais un chemin qui change selon les vagues, le flux et le reflux, le sens des marées. Deuxième balise, donc, faire attention à celui qui a le moins de moyens dans le groupe et lui donner la priorité. Le mettre au cœur de la démarche et de la réflexion. C'est à partir de lui, que nous allons avancer, à son rythme. Ce qui exige que l'animateur que vous êtes, attentif à tout le monde, mais attentif d'abord et davantage à celui qui ne parle pas, qui ne peut pas parler. C'est lui qui nous permettra, au fur et à mesure, d'évaluer la marche du groupe, de rectifier les manières de faire. Mais pourquoi donc vouloir mettre au cœur de nos démarches celui qui, apparemment, est le moins habilité à donner son avis ? Pourquoi vouloir le considérer comme source, comme moteur ? Source et moteur de nos pensées, projets, réalisations. C'est que mettre le plus petit à la base, au fondement, c'est se donner quelques chances que la parole ne sera refusée à personne. Le plus faible, le plus enfermé, comme garant de l'exhaustivité. La priorité aux plus pauvres se place au point de départ. Elle n'est jamais acquise, chemin faisant. Pour être sûr que tous, sans aucune exception, pour être sûr que tous puissent s'exprimer, il faut être attentif à celui qui a le plus de mal à s'exprimer. Mais comment faire s'il ne parle pas ? Lui donner la priorité. En lui donnant la parole. Pas nécessairement en premier, mais faire attention à ce qu'il puisse parler. Et s'il ne demande pas la parole, la lui proposer, mais sans insister. Et c'est là que les choses se compliquent. Proposer la parole, mais sans qu'il ait à la refuser. Simplement sentir que peut-être est-ce le moment, mais que non, ça ne l'est finalement pas. Donc la lui proposer et en même temps passer à quelqu'un d'autre, tout en restant proche de lui. C'est là qu'il y a une forme de connivence avec ceux qui n'osent pas parler. Percevoir le moment et percevoir que le moment que l'on a perçu n'est en fait pas vraiment le moment. C'est là qu'il n'y a pas de méthode ni technique. Simplement d'être là. C'est cela que l'on demande à celui qui anime. C'est d'être là en son corps. C'est pas le moment de prendre des notes. C'est pas le moment d'imaginer le troisième, quatrième, voire la conclusion. Elle se fera d'elle-même. J'y viendrai. C'est le moment d'être là. Présent, garant. Garant que le muet ne sera pas désigné. Garant que le muet ne sera pas plus encore humilié. Donc il n'y a pas aucune méthode pour faire parler le plus timide ou le plus enfermé. Il y a là quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience spirituelle. Celui qui a le moins de moyens est attendu. Attendu. Je compte sur lui. Je considère sa contribution comme nécessaire à l'avancée du groupe. Parle, toi aussi. Parle, le dernier à parler. Dis ton dire, parle, écrit dramatiquement Paul Celan. Bien sûr, les choses ne sont jamais simples. Il ne s'agit pas seulement de celui qui anime, mais aussi du groupe. Le groupe doit travailler sur lui-même pour faire place à celui qui a le plus de difficultés parmi ses membres. Et c'est là aussi son rôle à l'animateur. De faire en sorte, comment ? Je n'en sais rien. Mais de faire en sorte que le groupe parvienne à donner la priorité à celui qui est le plus enfermé, sans ajouter, comme on disait hier, de la honte à la honte. Troisième balise, prendre le temps de la confiance. Patrick Brun en a touché un mot hier, j'y reviens un peu plus au long. Une confiance qui se construit autant qu'elle se reçoit. Ce qui contribue à la confiance, c'est d'être très au clair avec ce que l'on fait. Que chacun sache ce qu'il vient faire dans ce groupe. Pour quelle raison ? Pour quel objectif ? Si on lit l'Évangile, on lit l'Évangile. Si on parle de géopolitique, on parle de géopolitique. Mais on sait ce qu'on fait. On n'est pas entre deux eaux, n'osant pas dire, retenant l'objectif réel. On sait où on est. C'est nécessaire pour la sécurité des gens. Savoir où l'on est, ce que l'on fait, ce qu'on attend de moi, de toi, de lui, de nous ensemble. Pour que la confiance puisse naître, il ne faut pas se précipiter sur le sujet que l'on a décidé de traiter. Mais il faut prendre le temps d'abord, d'emblée, au préalable, le temps d'écouter ce que vivent les participants. Car ils vivent. Ils ne sont pas seulement là pour quelques heures parler d'un sujet. Ils ont une vie, hier, avant-hier. Et une vie aussi demain, peut-être. Donc prendre le temps d'écouter, les rencontrer en ce qui fait leur vie réelle, concrète, leur vie. On est loin de l'élaboration d'un texte, on est loin de la discussion sur le thème, mais c'est préalable, c'est le ce sans quoi. Même lorsque nous n'avions que peu de temps pour élaborer un texte, parce que les délais était trop court, beaucoup trop court. J'ai toujours laissé le temps pour que chacun puisse dire ce qui l'habitait aujourd'hui. Aujourd'hui. Par exemple, à partir de la lecture d'un psaume, choisissez un mot, une phrase qui vous parle aujourd'hui, maintenant, et puis, si vous le souhaitez, dites pourquoi. Simplement pour que la tension intérieure, par ce qui vient d'être vécu, par le souvenir, par l'inquiétude et l'angoisse de demain, que cela puisse sortir, de quelque manière que ce soit. Pour que la parole soit purifiée. C'est toujours un temps où le groupe réalise qu'il y a des rythmes de vie et de souffrance à respecter. C'était pour moi une priorité. On ne peut pas échanger librement si l'angoisse est trop lourde ou si l'obscurité vous entoure trop. Et si le temps manque pour faire ce qu'on devrait, l'extraordinaire, c'est que finalement le temps est quand même donné. Quatrième balise, ne pas chercher de tracé préalable Je l'ai déjà dit, je n'avais pas dressé de carte permettant de savoir à l'avance les écueils ou les passages plus faciles. J'étais simplement en état de veille. Veiller à ce qui va venir. Laisser s'ouvrir les chemins de traverse ou au contraire les détours. Peu importe. Pour cela, ne pas être omnubilé par le sujet à traiter. Dans une rencontre sur créer de la richesse pour préparer une rencontre publique dans un des clubs Diaconia, dans cette rencontre dont le thème était créer de la richesse, tel était le thème sur lequel il fallait réfléchir, si je n'avais pas laissé parler, apparemment complètement hors sujet. Jamais il n'y aurait eu de développement sur le pardon. J'aurais pu remettre sur le droit chemin et dire « mais c'est de richesse qu'il faut parler ». D'ailleurs, je l'ai fait plusieurs fois au cours de ce groupe, agacé un peu que nous nous écartions, le temps était court, il fallait faire un texte, malgré ce que je viens de dire, eh bien, il arrive que l'on soit inquiet de ce qu'il faut produire. Les choses ne sont jamais si simples, je dresse une épure. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça ne te regarde pas. En définitive, c'est exactement ça. Ça ne me regarde pas. Les personnes du groupe disent... Donc je n'ai qu'à écouter et simplement suivre le parcours, le lent parcours. Alors j'aurais pu remettre sur le droit chemin et m'y tenir. Mais précisément la parole qui se disait là, c'était que la richesse que nous avons à créer, c'est accorder le pardon. Il n'y a pas de droit chemin. Ou pour le dire avec le poète, il n'existe pas de pont, seulement l'eau qui se laisse traverser. Il n'existe pas de pont. Imaginez, une quinzaine de personnes sont rassemblées pour échanger sur un sujet. Que faire? Comment faire? Vous avez une méthode, vous êtes tranquille, vous avez des béquilles, tout est prévu et vous suivez 1, 2, 3, 4, 5, vous pouvez même ajouter 1.0 d'ailleurs. Et tout va bien. Mais alors vous êtes enfermé et j'y reviendrai, sûrement pas ouvert à l'imprévu. Alors simplement... L'attention à ce qui vient. L'écoute. Et pas n'importe quelle écoute. L'écoute qui rend possible à celui qui est ainsi écouté de s'entendre lui-même. Et ainsi de pouvoir laisser émerger sa pensée. Une pensée. Sa propre parole. Et c'est ainsi que, les uns par les autres, une pensée advient. Imaginez encore que le thème à traiter soit la joie. C'est effectivement le thème, en août dernier, il y a quelques mois, pour préparer l'intervention de la session de théologie pratique de Nevers, en décembre prochain, dans quelques jours. Un petit groupe, une douzaine, 2 heures de rencontre, très rapide, au cours d'un pèlerinage où il y avait bien d'autres choses à faire. Donc 2 heures, montre en main. Après avoir donné les quelques règles de tout à l'heure, je pose uniquement 2 questions pour situer le sujet de notre échange. Qu'est-ce que c'est pour vous la joie? À quoi ça vous fait penser à partir de votre vie telle qu'elle est? Alors, Marie-France dit quelque chose, puis Alain, encore Marie-France, puis Cécilia, Christian, encore Alain, et ensuite Laurence, et puis Thierry. Sans que je n'aie rien à dire, il n'y a rien à dire. Et voici qu'un fil se découvre. Plusieurs fils, les uns après les autres. Des fils qui, peu à peu, se tissent. Des fils qui nous conduisent. Ce n'est pas l'animateur qui conduit, c'est la parole elle-même conduit. Je n'ai pas à tisser les fils entre eux. Ma responsabilité n'est pas de tirer sur un fil plutôt que sur un autre. La trame se fait toute seule. Il me faut, je le disais il y a un instant, simplement être là, garant, que chacun peut parler, que chacun est écouté, que chacun est attendu et espéré. Il faut laisser le groupe se frayer une voix, VOIX, VOIE, la laisser venir au jour, cette voix, c'est-à-dire naître. Ce que nous avons fait dans les différents groupes, rencontre après rencontre, nous a appris ce que nous cherchions. Le chemin se fait en marchant, dit Machado. Si on a une méthode trop précise, on risque de s'enfermer et de n'être plus en alerte face à ce qui vient, face à l'imprévisible, quelquefois face à l'inespéré. Car toute partance est hasardeuse, ouverte à l'imprévu. Il faut que l'animateur puisse saisir et suivre au fur et à mesure les avenues qui s'ouvrent. C'est ça la difficulté. Il ne faut pas que l'animateur, il faudrait trouver un autre mot, encore que le mot lui-même est beau, animer la flamme. Il ne faut pas que l'animateur ait trop d'idées derrière la tête. Sinon, il va trop induire la réflexion du groupe. Il risque fort de la téléguider. Or, nous avertit le père Joseph Wresinski, les instruits, écoutez bien, citation, les instruits se laissent emporter par leurs propres idées. Ils finissent toujours, par penser à la place des autres. Les instruits se laissent emporter par leurs propres idées, ils finissent toujours par penser à la place des autres. Ou bien dans les mots d'Anna Arendt, citation, ils se laissent prendre au piège de leur propre construction. Le seul préalable, encore une fois, mais il est de taille, et que j'avais la conviction que la parole du plus pauvre devait être mise au centre, parce que ce que tu as caché aux sages et aux instruits, tu l'as révélé au tout petit. C'était aller où nous n'aurions pas imaginé aller et s'apercevoir peu à peu, mais surtout après coup, que là était le chemin. C'est ce qu'il fallait faire. J'en ai été le premier surpris. Comme je le disais en commençant, n'aimant pas tellement animer des groupes. Cinquième balise. L'écoute. Qui écoutons-nous? Rappelez-vous les apôtres qui rabrouent les petits-enfants ou la foule qui veut faire taire l'aveugle, le fils de Timée. Qui écoutons-nous? Et comment écoutons-nous? En inventant le sens que nous voulons percevoir, nous nous bouchons les oreilles. Le risque, c'est d'écouter avec nos idées ou que nos oreilles obéissent à nos esprits. Écouter, en fait, écouter pour entendre. Et pour entendre vraiment, il faut s'attendre à entendre. Je crois que Marie-Vonne en parlait hier soir. Il faut s'attendre à entendre quelque chose et croire qu'il y a quelque chose à entendre. Autrement, les mots ne sont que des mots et ne diront rien. Ils ne seront que des mots. Comme le dit Christian de Chergé, citation, « On finit toujours par rencontrer l'autre au niveau où on le cherche. » Les personnes des groupes ne se sentiront appelées à s'exprimer que si je crois profondément à l'importance de leurs paroles, pour moi-même, autre chose sur l'entendre. Pour pouvoir entendre quelqu'un, il faut le rencontrer. Écouter, c'est bien. Mais on n'entend pas n'importe qui. Il faut le connaître. Ou du moins, avoir déjà fait un bout de chemin pour le mieux connaître. Pas forcément connaître Paul, Jacques, André, Jacqueline, de manière très personnelle. Mais avoir déjà commencé à entrer dans le contenu de la vie des gens. Il peut arriver que des personnes interrogent d'autres personnes en ignorant tout de leurs conditions d'existence. Si vous ne savez pas, par exemple, qu'une femme de la misère qui va accoucher est obnubilée par la peur qu'on lui prenne son bébé dès le sortir de son ventre, alors il y a bien des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Nécessité d'une connaissance pour entendre ce que disent les gens. Par exemple, Marc et Brigitte ont vécu l'un et l'autre des enfances très difficiles, avec de très fortes blessures. Ils en ont parlé à Marie-Vonne. Lors d'une rencontre du groupe de Paris de la Pierre d'Angle, ils partagent, mais sans dire ces blessures. Marie-Vonne constate qu'un témoin extérieur ne pourrait pas comprendre la profondeur de champ de ce qu'ils sont en train de dire. L'interprétation est évidemment libre, mais elle doit être contextualisée. Il y a là deux points de vue, celui qui sait à partir d'où les personnes parlent et puis celui qui ne sait pas. Chacun engendre une interprétation différente. Il ne suffit pas d'avoir un corpus pour qu'il livre son secret. Car nous prévient le père Joseph Wrzesinski, citation, « Le chercheur se trouve là devant un champ de connaissances dont il n'a pas les moyens de se rendre maître. Il se trouve en quelque sorte face au jardin secret des plus pauvres. » Et il continue, « Nul ne peut entrer, à moins de changer de situation de vie, pour être en mesure de comprendre ce qu'ils disent. » Nul ne peut entrer, à moins de changer de situation de vie. Il y a un autre danger à éviter, celui d'entendre à partir de l'interprétation qui est toute prête à interpréter. On se trouve dans l'auberge espagnole où l'on trouve ce que l'on avait amené. C'est pour l'écoute tout le contraire, et c'est inconfortable, parce que c'est souvent l'inattendu qui survient. Et une fois l'inattendu survenu, il faudrait être capable de réviser nos idées, plutôt que de faire entrer au forceps le fait nouveau dans la théorie incapable de vraiment l'accueillir. Écoutons l'historienne Arlette Farge, la spécialiste du XVIIIe qui travaille sur la vie des pauvres gens à travers les archives de police. Voici ce qu'elle dit. La parole des gens, citation, est un morceau de savoir qui ne s'annexe pas retenez ce mot d'annexer. J'annexe la parole des gens. La parole des gens est un morceau de savoir qui ne s'annexe pas, mais dérange. Dérange. Elle enlève nos rangements habituels. Je continue la citation. Il n'est pas simple de se défaire du trop-plein d'aisance à lui trouver du sens. Pour pouvoir la connaître, cette parole, il faut la désapprendre et non croire la reconnaître dès la première lecture. Et encore, citation, il y a une façon insensible, mais réelle, qu'a l'historien. Arlette Farge parle pour elle-même, mais pour nous autres aussi. Une façon insensible mais réelle qu'à l'historien de n'être attiré que par ce qui peut conforter ses hypothèses de travail décidées à l'avance. Fin de citation. Le risque, c'est que la parole des pauvres ne soit pas entendue, mais qu'elle soit traduite d'avance. Il ne faut pas la faire sortir d'où elle vient, cette parole. Ne pas la trahir, ni l'éloigner d'elle-même. Il faut, et je cite encore une fois Arlette Farge, il faut que leurs paroles, Arlette Farge dit leur texte, il faut que leurs paroles, citation, gardent le dernier mot. Curieusement, je crois que Marcel parlait de se garder le dernier mot. Sixième balise, ne vous inquiétez pas, les trois qui restent sont extrêmement courtes. Il me reste 2 minutes. On n'est pas dans la plainte. Sixième balise, on n'est pas dans la plainte. C'est normal de dire ce qui ne va pas, de dire comment la vie est difficile. Plus la vie est difficile, plus la plainte est ressentie comme nécessaire. Il faut que l'animateur fasse attention à que le groupe ne s'enferme pas dans la plainte et que lui-même ne s'enferme pas dans une trop grande attention à la plainte, ni dans une trop forte compassion. Parfois, l'émotion déborde, parfois c'en est trop. La plainte fait naître la plainte, alors attention, un tel groupe n'est pas un groupe de parole, un groupe thérapeutique, nous ne sommes pas des apprentis sorciers en psychiatrie. Il faut faire attention à ce que l'écoute que j'ai de l'autre ne tombe pas, je cite là une expression de Fred Pochet, ne tombe pas dans une sorte de voyeurisme de l'oreille. Je cherche, fût-ce inconsciemment, à ce que l'autre m'en dise toujours plus. Et là, l'inconscient va plus vite que la parole. Septième balise. Attention à ne pas rectifier ce que disent les membres du groupe. On n'est pas là pour que la pensée soit juste à tout prix. On est là pour avancer ensemble. On n'est pas là, on est là pour apprendre ensemble. Vous savez, des rectifications se font dans un groupe, les uns par les autres, comme une sorte d'équilibre qui se met en place, intervention après intervention. Si du moins, on ne se contredit pas. Mais si on dit simplement ce qu'on pense, Luc pense ça, moi je pense le contraire, mais je le dis sans dire que je suis opposé à Luc. Et ainsi, Luc, autant que moi, nous pourrons changer d'avis, peu à peu. Il faut éviter un double écueil. Soit traduire la parole des pauvres en notre propre langage. Vous savez, c'est entendu. Si j'ai bien compris, c'est ça que vous avez voulu dire. J'ai rien voulu dire, j'ai dit. Soit traduire la parole des pauvres en notre propre langage, soit absolutiser telle ou telle formulation sous prétexte qu'elle vient du monde des exclus. Huitième et dernière balise. N'oublions pas que l'objectif essentiel, c'est la destruction de la misère. Il s'agit de transformer les situations, de donner la vie à ceux que nous connaissons, de rendre l'existence et la paix dans la justice. C'est ça l'objectif premier. C'est pas de recueillir la parole. C'est que la misère s'arrête. Une des routes pour cette destruction, c'est que les personnes en situation de précarité aient leur place dans l'Église, dans le monde, la place qui doit être la leur, et que de cette place, ils puissent avoir une parole qui soit la leur, et que cette parole soit entendue pour que, à partir d'elle, nous en soyons transformés et qu'ensemble, nous transformions le monde pour que paix et justice s'embrassent, comme dit le psaume. En conclusion, le plus pauvre des pauvres a de la ressource si on lui permet de prendre sa place parmi nous, si on l'entend après l'avoir écouté. Si on l'écoutait, on pourrait entendre l'inouï, le pas encore entendu, qui nous concernerait dans ce qui nous est essentiel, fondamental et créateur. Et c'est là le lieu de l'Évangile. Mais pour l'écouter, pour l'entendre, il faut s'attendre à l'entendre. Il nous faut faire un détour. Alors, nous ne pourrons plus nous en détourner. Songez à l'épisode du buisson qui brûle sans se consumer et à l'attitude de Moïse. Songez-y. Merci.
Merci.
Merci Jean-Claude pour cette expérience tellement réfléchie. Nous avons 10 minutes pour donner un écho, pour demander une précision, pour faire part d'une expérience similaire, proche. Qui veut la parole? Et le micro.
Il y aura des actes, je crois.
Pardon ?
Il y aura des actes, je crois.
Complet.
Il y aura... je pense qu'on peut... On pourra faire aussi.
Je vais vous dire, j'ai tellement préféré vous écouter, j'ai pas pris de notes.
Voilà.
Oui, mais c'est pas...
Étienne, Étienne Grilleux, je suis à Saint-Denis et au Centre Sèvres aussi, en travaillant... un peu avec Jean-Claude. Je voudrais un peu rebondir sur ce que tu dis, notamment comme théologien. J'ai été très sensible au mouvement que tu décris, finalement, dans lequel il y a, on pourrait dire, les constructions qu'on a en tête sont rouvertes par de l'inattendu, par ce que disent les personnes. Et je me dis, le cœur de la théologie est précisément non pas dans les constructions mais dans ce mouvement de rouverture qui est incessant tout au long de l'histoire de la théologie. Et du coup, ça, mine de rien, ça incite à voir un peu autrement ou même profondément autrement toutes les élaborations théologiques, non pas d'abord comme des constructions qui seraient comme des reprises, mais disons comme cette attention constante à se laisser rouvrir.
Voilà. Oui.
Et ça, ça incite à voir la théologie comme une sorte de mémoire de cette expérience de rouverture, je ne sais pas comment dire. Voilà. Merci beaucoup.
Jérôme Vignon.
Donc, Jérôme. Jean-Claude, je suis aussi extrêmement touché par votre intervention, bien que non surpris. Et je trouve que la huitième balise est tout à fait fondamentale. Mais j'aimerais que vous m'aidiez à dissiper une ambiguïté qui naît d'autres balises, notamment celle dans laquelle le père Joseph est cité, et particulièrement sur l'incapacité définitive des universitaires, des intellectuels, à s'abstenir de s'approprier la parole et de lui donner une forme qui soit véritablement ouverte. Il dit bien « définitive ». Une autre balise nous dit que sans une connaissance véritablement approfondie, résultant d'une fréquentation dans la durée des personnes dont on cherche à comprendre vraiment la parole, on n'y arrivera pas. Et ma question est donc, faut-il appartenir à Pierre d'Angle, à Thédée Carmonde, ou bien est-ce peine perdue? Je pose ma question de manière évidemment forte, parce que nous ne sommes pas tous appelés à vivre selon la vie que vous-même avez expérimenté pendant des années.
Peut-être tu prends la parole et puis je réponds après, parce que c'est capital.
Sinon, pour répondre aussi, bon, merci beaucoup pour votre topo, ça m'aide beaucoup. En tant qu'universitaire, théologien, j'éprouve cet écart entre la parole que j'écoute, des plus pauvres, la mienne aussi. Mais j'essaye aussi de penser, si le verbe se fait cher, on doit écouter la parole et on doit écouter la chair.
Oui.
Et quand on écoute la chair, là, je me sens plus proche des pauvres. Même si ma parole a un écart, la chair qui parle par le corps, par les chants, par les gestes, là, on retrouve, à mon avis, aussi un lieu de communion. Et donc, comment écouter la parole et comment écouter la chair qui peut-être est le lieu de communion pour les parents.
Oui, juste un mot. Je commence par ce que tu as dit, puis ensuite je reviendrai à ce que disait Jérôme. C'est exactement la perspective de Jésus. C'est précisément pour ça que j'ai commencé par Marc 12. Jésus qui regarde, Jésus qui se laisse enseigner par des attitudes, par la chair. Jésus entend le fils de Timée qui « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» La foule le rabroue et seule fois dans l'évangile, dans les synoptiques, la seule fois où Jésus s'arrête, Jésus s'arrêta. C'est la seule fois qu'il s'arrête. Il est touché par, on peut dire par les mots, mais en fait c'est un au-delà des mots. Donc il y a là quelque chose, comme disait Peggy, la mystique est charnelle, sinon... Donc oui, là il y a quelque chose qui... Bon, et puis on voit bien, on n'est pas présent aux personnes sans que la poignée de main soit nécessaire, l'accolade, sans que l'embrassade soit nécessaire. Ce que disait Jérôme est important. Impossibilité, disiez-vous, définitive. Jamais rien n'est définitif. En fait, ce qui est là en question, c'est notre capacité à chacun de nous laisser transformer par ce qui nous dépasse. Ce qui nous dépasse, c'est bien l'expérience de vie que nous n'avons pas, vous comme moi. Je n'ai jamais vécu dans la misère. Ma mère n'était pas bien riche. Et nous vivions parfois d'aumône, mais nous n'étions pas dans la misère. Donc je ne suis là qu'un hôte. Je ne sais pas ce qu'est la misère. Je ne sais pas ce qu'est souffrir du manque, de la honte, de l'humiliation. Je ne sais pas ce que c'est que d'être le mari d'une femme qui se demande si son bébé, on va le lui prendre. Je n'ai jamais eu cette angoisse, malgré les 5 enfants qui nous sont nés. Donc, de cela, je ne peux pas rendre compte. Encore une fois, je ne suis qu'un hôte. Mais j'ai la capacité en moi, comme vous, comme chacun de nous, de faire confiance à cette parole. De dire, mais elle me dit sur qui je suis, sur qui est mon voisin, sur ce que nous sommes en tant qu'humanité. Elle me dit quelque chose de fondamental. Ce n'est pas un accident de l'histoire. C'est quelque chose qui appartient à l'humanité. C'est une expérience qui me manque. Non pas qu'il faudrait que nous ayons cette expérience. Heureusement, nous ne pouvons la souhaiter à personne. Mais elle nous manque parce qu'elle est une part de l'humanité. De même que cette expérience manque à l'Église. Alors, non, l'impossibilité n'est pas définitive, parce que nous pouvons changer. Et nous pouvons changer où que nous en soyons dans l'existence. Et ce n'est pas un changement qui est définitif. Je veux dire, c'est pas une fois pour toutes, c'est on continue sans cesse de changer, parce que dans ce domaine, on va de haut en bas. Je veux dire, il y a des jours où on ne peut pas comprendre. Et il y a des jours où on sait bien que on n'a rien compris. Qu'on a fait peut-être le contraire de ce qu'il fallait faire. Mais alors, l'expérience vient que la bêtise qu'on a pu faire, je veux dire, le mot qu'il n'aurait pas fallu dire à Madame Gaillande, ou le geste qu'il n'aurait pas fallu poser avec Monsieur Cipriot, en fait, les gens nous pardonnent. Et c'est ça. Ce qui se passe alors en nous, c'est la conversion vient, le retournement vient du pardon reçu. Vous allez me dire, oui, mais encore faut-il les voir en chair et en os, pouvoir les toucher. Non, pas forcément. C'est écouter ce qui se dit. Les témoignages divers, en les prenant radicalement au sérieux, vraiment au sérieux, ils me disent quelque chose qui peut me faire grandir, m'apprendre, me faire devenir plus humain. Et là, dans ce domaine, il y a beaucoup de choses. Il y a la lecture, il y a la radio, il y a la parole des autres. Tout ça, et quand je dis la lecture, je ne parle pas de la lecture des sociologues, je parle bien de la lecture des témoins directs. Et puis, dernière chose, le temps passe, mais juste ce mot, c'est parler de connaissances. Est-ce que alors il faut appartenir à telle ou telle association et... En fait, il faut rencontrer. L'essentiel, c'est de rencontrer. Et c'est du même ordre que ce que je disais à l'instant, c'est rencontrer, voilà, ou bien rencontrer à travers tel ou tel témoignage, mais on est là dans l'ordre de l'expérience spirituelle, c'est du même ordre. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais c'est du même ordre que la rencontre de Jésus dans les évangiles. Enfin, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais enfin, Jésus n'est plus là. Et pourtant, il troue le texte. À l'instant même où j'ouvre les évangiles, alors il devient parole. Le mot lui-même troue le texte. Le mot surgit. Et c'est ça, la rencontre de Jésus dans les évangiles. C'est pas autre chose. Et cette rencontre peut se faire dans un texte. Vous voyez, vous pouvez lire un texte et tout d'un coup être ému par la phrase qui se dit. Et alors, vous comme moi, nous savons comment nous faisons. Nous passons parce qu'il faut poursuivre la fin de l'article. Il faut aller au bout du livre et puis il y a d'autres occupations qui viennent. Bon, ce n'est qu'une larme à l'œil, mais justement que ce ne soit pas qu'une larme à l'œil. C'est-à-dire que ce qui s'insigne nous touche, c'est comme un signe que celui qui souffre, qui est enfermé et exclu, comme un signe qu'il me fait. J'ai là quelque chose à te dire. Voici que tu ne peux pas, toi, me rencontrer, mais je viens à ta rencontre. Donc non, rien n'est impossible. Le Père Joseph, là, dans ce texte que vous avez bien saisi, et en effet, il y a une forme d'impossibilité. Ce texte est un texte ancien, déjà. Et c'est vrai que je pense qu'à l'époque, le Père Joseph pensait que c'était impossible. Et que peu à peu, il a réalisé que ce retournement pouvait se faire. Et que, justement, personne ayant rencontré le monde de la misère n'en sort indemne. Il en sort transformé. Chacun à sa mesure. Mais dans ce domaine, nous n'avons pas à nous comparer. Nous sommes chacun des humains sur la route et le misérable, notre proche, notre frère, il est celui qui nous devance. Toujours.
Merci. Oh oui, on peut applaudir.
Merci beaucoup, Jean-Claude. Et donc, de toute façon, on va poursuivre cette réflexion tout au long de la matinée. Sûrement, ces 8 balises qui ont été formulées vont aussi nous aider tout à l'heure dans le travail des petits groupes. Et j'invite maintenant Xavier Poussier, Jean-Marie Martin, Alain Ave, Bruno Lévy et Vincent de Coulanges à s'approcher. Et que... Ah, okay.